Et bon mercredi, si vous venez de vous joindre, vous êtes à Boulevard 102. Il nous reste une cinquantaine de minutes ensemble. 4 mars, je m'appelle Audrey Véraud-Bergeron qui est avec moi, Antonine Iaccarini qui est en remplacement parce que notre Denis Gravel prend du temps avec les enfants à maison. Égoïste, hein? Il nous laisse tout seul.
Ben oui.
La relâche, il l'a pris, il l'apprend chaque année et il sera de retour lundi officiellement. Vous voulez nous rejoindre? 88-971-1021 texto, vous vous gênez pas, 780-1021 téléphone. On est sur Twitch également, twitch.tv, BLVD, barre sous FM. On a gardé Mathias avec nous parce qu'en plus d'aller se promener au Scrum avec le maire Marchand dans l'heure de 13h, il a travaillé sur un dossier dans les derniers jours. On a un gros stress relié à l'économie. Je pense que je vous apprends rien. On le ressent tous à différents niveaux. Et là, il y a des questions à se poser en frais de pouvoir d'achat, de tarifs, de potentielle récession, un mot qui fait donc peur, hein, on va se le dire. Est-ce qu'on vit vraiment une situation économique si pire que ça au Québec? C'est un peu la question qu'on se pose, Mathias.
Oui, puis la raison pourquoi j'ai décidé de partir sur ce dossier-là, c'est que moi-même, je fais un peu partie du problème. Je suis quand même pessimiste lorsque je m'imagine mon futur en tant que jeune personne. Mm. On voit le prix des logements, on voit le prix de la nourriture.
As-tu l'impression que tu vas avoir une maison à maner, toi?
Ben, c'est une bonne question. J'ose espérer que oui, mais encore une fois...
Penses-tu que tu vas avoir des économies? Vas-tu être capable de prendre une retraite? Ben là, tu vas faire des cauchemars.
On est là pour me faire stresser. Je pensais que je suis relax, hein, fait que faites-moi pas stresser, s'il vous plaît. Mais non, c'est ça, puis j'ai l'impression que c'est comme répandu chez beaucoup de personnes, ce stress économique-là, qui s'en vient de plus en plus grandissant. On parle d'un pouvoir d'achat un peu partout. Pouvoir d'achat, ça n'a pas d'allure, il n'a jamais été aussi bas, il n'arrête pas de baisser. C'est comme un peu une croyance populaire qui s'est distribuée partout à travers la population. Mais c'est-tu si vrai que ça? Mm. C'est-tu si pire que ça, la situation économique qu'on vit actuellement?
Où on fait de l'enflure.
Donc, j'ai parlé à plusieurs économistes. J'ai parlé à Geoffroy Boucher, qui est économiste à l'Observatoire québécoise des inégalités. J'ai parlé à Benoît Durocher, qui est économiste principal chez Desjardins. Et Patrick Gonzalez, qui est enseignant en économie à l'Université Laval, dans le but de répondre à cette question-là. À commencer par le pouvoir d'achat, parce que je pense que c'est ça qui touche le plus directement la population de puis le monde qui nous écoute quand ils vont à l'épicerie puis que ça coûte une fortune, mm-hmm. on va se dire.
On a vu le pourcentage de population qui se trouve dans une situation, elle a besoin d'aide pour un besoin aussi basique que de se nourrir.
Oui, c'est 19,1% ouais. Les dernières statistiques de Statistique Canada en lien avec l'insécurité alimentaire. C'est un Québécois sur 5. C'est énorme. Mm. Je me suis donc basé, le pouvoir d'achat, on en parle, on dit qu'il est au plus bas, mais est-ce que c'est si vrai que ça? Puis ce qui est intéressant, c'est que théoriquement parlant, au cours des 5 dernières années, le pouvoir d'achat serait en hausse.
Mais il y a où le problème?
Ben c'est là que ça devient intéressant.
Tu ne vois pas que tu as une réponse pour moi?
Ben, j'ai une réponse pour toi, bien sûr. Parce que si on prend l'augmentation du revenu disponible chez la moyenne québécoise, on parle de 19,3% d'augmentation en 5 ans, dans les 5 dernières années. Si on parle d'inflation moyenne, pas de secteur spécifique, mais en moyenne, on parle de 18,4%. Ce qui veut dire que l'augmentation de revenus est supérieure à l'inflation présentement. Donc, théoriquement parlant, puis je demeure entre guillemets, le pouvoir d'achat augmente. Par contre, j'en ai discuté avec Geoffroy Boucher, justement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nuance très importante par rapport à cette statistique-là, parce que l'augmentation de revenus, elle est surtout sentie chez les mieux nantis de notre société.
Il faut aller un peu plus loin dans notre analyse puis voir, ben, tu sais, l'augmentation du revenu a bénéficié à qui? Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis la pandémie, l'augmentation du revenu disponible est principalement concentrée au haut de la distribution. Là. Donc, tout à l'heure, je parlais des quintiles. Donc, on sépare la population en 5 parties égales. Bien, c'est le cinquième quintile, le 20% le plus riche, qui a eu une augmentation très marquée du pouvoir d'achat, du revenu disponible. On parle d'une augmentation là, d'environ 50% en 4 ans, alors qu'au niveau du premier quintile, en fait, tous les autres quintiles de revenus, là, pour 80% de la population, le revenu a soit stagné ou il a diminué.
Puis
c'est donc bien mal fait.
C'est le fameux
principe que les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres sont malheureusement de plus en plus pauvres.
Puis ça, c'est intéressant parce qu'on voit, par exemple, puis on en avait un peu traité lors de mon dossier du logement qui remonte à un mois environ. Lorsque tu as une propriété, il y a tellement eu de l'inflation sur les propriétés, ben tu deviens de plus en plus riche. Les placements en bourse augmentent grandement malgré le pouvoir d'achat, mais ceux qui ont des placements en bourse, encore une fois, pour la majorité, c'est les mieux nantis.
C'est ceux qui ont été capables d'en faire un moment donné.
Exactement, d'en placer. Puis ça m'intéresse par texto 88-971-1021. C'est quoi vos augmentations par rapport aux 4-5 dernières années par rapport à votre salaire? Parce qu'on voit des augmentations de 15, 20,
30%
25%
c'est député, non?
Même c'est plus que
eux
ça.
Eux font partie de la strate de privilégiés dont tu parlais.
C'est au-dessus de 40% pour des députés.
Oui, mais Antonine, ils ont de jeunes familles, ils doivent s'en occuper.
Oui, c'est ça. Les autres, on n'en a pas.
On sait que le taux de natalité est concentré chez les députés.
Exact. Ils ont des familles.
Oui.
Dans les gros emplois de la fonction publique, on voit des grosses augmentations chez les plus riches également.
Mais tu sais, ce qui est difficile, c'est ça. Ce qui est difficile pour les moins nantis, Mathias, c'est que ce qui augmente, entre autres, c'est le logement, la bouffe.
Ben oui.
Ce qui est comme quand même la base.
Parce qu'on parle d'une inflation de 18,4%. Mais pour le logement, on parle de 30%. Et pour la nourriture, on parle de 27%. Ce qui est intéressant.
Là, on a du 0% d'augmentation dans les 5 dernières années, du 2,5 à 3% dans les grosses années. Fait qu'on est loin des chiffres moyens.
Oui, oui, vraiment. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'augmentation à la fois dans les logements et dans la nourriture, ceux que ça impacte le plus, encore une fois, c'est des moins bien nantis pour diverses raisons, notamment parce que, de ce que me dit Geoffroy Boucher, ils n'ont pas de mesure d'atténuation face à ça.
Et il y a aussi moins de stratégie d'atténuation. Hein. Si les prix des aliments augmentent, puis bon, on est une famille plus aisée, bien là, on peut décider, par exemple, là, d'acheter des marques moins chères ou de modifier un peu les choix à l'épicerie. Mais lorsqu'on est à faible revenu, bien, souvent, on achète déjà la marque la moins chère. Donc, il y a moins de stratégie d'atténuation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les ménages à faible revenu là, sont touchés davantage par la hausse du coût de la vie.
Puis, ce qui est intéressant, un autre point également qui fait en sorte que c'est moins bien nanti, c'est que moins que tu as d'argent, plus que ta part de ton revenu qui va là-dedans est élevée. Par exemple, pour le premier quintile de la société, donc les 20 % qui gagnent le moins, on parle de 50 % de leurs revenus qui vont là-dedans. Fait que s'il y a une augmentation, c'est eux autres qui en payent le plus.
Avez-vous jasé, Mathias, de tout ce qui est classe moyenne? Parce qu'on parle beaucoup ce temps-ci, surtout quand on a parlé, mettons, de la bouchée généreuse, de ces organismes-là. On dit que le visage de la pauvreté change, puis que de plus en plus, c'est des gens de la classe moyenne. Fait que c'est comme si la classe moyenne, elle existe de moins en moins. Ça se divise, cela.
Puis lorsqu'on voit les augmentations du 20 % des mieux nantis, qui est astronomique par rapport aux autres, la question se pose, la classe moyenne, est-ce qu'elle disparaît? J'ai posé la question à Geoffroy Boucher, puis il m'a apporté des nuances quand même intéressantes pour me dire que pas tant que ça au final.
Et ce qu'on voyait, c'est que sur une période de 50 ans, en 1976 puis 2022, il y avait plutôt une augmentation du pouvoir d'achat de la classe moyenne au Québec. Ce qu'on se rend compte, c'est que la classe moyenne consomme davantage aujourd'hui qu'elle consommait autrefois. Mais pour ce faire, elle s'endette davantage, mais elle travaille aussi davantage. Donc, le nombre de personnes par ménage qui travaillent a augmenté sur la période de 50 ans. Puis, c'est notamment lié à une plus grande participation des femmes sur le marché du travail. Mais bon, cette recherche-là s'arrêtait avec les données de 2022. Comme je te dis, depuis la pandémie, la situation semble un peu différente. Il y a effectivement une diminution du pouvoir d'achat au centre de la distribution. En fait, pour tout le monde, là, sauf les plus riches là, de la société québécoise, il y a une diminution du pouvoir d'achat.
Mais en général, la classe moyenne n'est pas nécessairement plus pauvre qu'elle était il y a de ça 50 ans. C'est pour ça que quand on regarde la situation et qu'on se dit « Oh my God, c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de l'économie, le système ne fonctionne plus », bien, lorsqu'on parle à des économistes qui regardent l'histoire, on se rend compte que c'est pas si pire que ça. Par contre, je tiens à dire, je diminue rien, puis on en a parlé, la nourriture puis le logement, ce qui est les besoins de base là, de notre société, c'est ridiculement élevé. Puis...
Et mon Dieu, je lis les textos, tu as posé la question aux auditeurs, l'augmentation salariale, mettons, dans les dernières années. 0 % en 5 ans, 2,5 à 3 % dans les grosses années. C'est là que tu vois que c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Hein? 4 % environ, entre 3,5 et 4 % dans les 5 dernières années.
Ben, c'est...
Puis, en deux ans, 35 %.
Ouais, mais ça, c'est l'augmentation, c'est le placement, c'est pas le salaire.
Ça, j'ai rire, là, je trouve ça intense en maudine.
Tu sais, il y en a qui sont en mesure de négocier leur salaire, mais il y a combien de personnes qui se trouvent dans des emplois où c'est pas de même que ça se négocie? Ouais. Tu vas avoir des échelles salariales, puis ça, je vous parle en dehors du gouvernement, en dehors des syndicats, mais c'est pas évident de s'asseoir puis d'être capable de dire dans certains emplois, hey, je vaux plus. Il y a des jobs que c'est pas de même que ça fonctionne.
Puis pour ces personnes-là qui sont dans des travails que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais quand le prix de la nourriture augmente, bien, eux autres, ils n'ont pas les moyens d'avoir un salaire qui augmente avec ce prix de
mais
la nourriture-là.
Généralement, ce que tu nous dis, c'est que la situation n'est pas si critique que ça.
Non, puis même, t'es encore une fois, il faut relativiser. Ça reste une situation qui est difficile, surtout lorsqu'on embarque dans les moins bien nantis de notre société.
Mais tu sais, quand des économistes nous disent que c'est pas si pire que ça, c'est sûr que ça dépend de chaque situation personnelle aussi. Tu sais, faut pas penser que c'est insensible que les économistes parlent comme ça. Mais par contre, il y a vraiment un aspect psychologique et de perception à tout ce qui touche le pouvoir d'achat. Mm-hmm. Puis je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu une entrevue dans la presse qui avait vraiment fait jaser parce que c'était une famille puis qui disait qu'eux autres, là, c'était épouvantable puis que ça allait pas bien l'économie puis qu'ils se sentaient bien pris à la gorge. Ouais. Puis là, tu te promenais puis il y avait comme une grosse maison. Puis là, il dit, regarde, vous voyez, là, cette année, on voudrait refaire notre driveway, mais on peut pas, là, on est trop serré dans l'argent.
C'est alors que des gens ont de la misère à se nourrir puis à se loger. Puis les autres, ils sont à faire des rénovations de leur entrée.
Puis là, il dit, tu sais, il faudrait qu'on refasse la toile de la piscine, mais tu sais, on la refera pas cette année. Puis tout ça. Eux, là, ils se sentaient bien pris à la gorge. C'est tellement une question de perception.
Mais c'est intéressant ce que tu emmènes. Puis je pense que c'est lundi que vous en parliez, là, de la semaine de relâche, de la pression qu'on ressent de faire toujours des activités. Puis j'ai l'impression que ça revient chez beaucoup de familles, mais veut pas, avec cette pression-là de toujours faire des activités, toujours, puis on te dit on consomme de plus en plus aussi, bien forcément, si on consomme plus, si on fait plus d'activités, bien ça coûte plus cher également, il faut le prendre en compte. Je passe au deuxième volet un peu de mon dossier. On a parlé du pouvoir d'achat, mais une des grosses affaires qui stresse également les personnes avec un contexte économique, ça sort dans les médias, on en parle, puis ça fait bien peur, c'est la menace de récession.
C'est quoi ça, récession? Ça a l'air con comme question, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de termes que...
Bien ça, c'est intéressant parce qu'il y a une définition théorique, entre guillemets, qui n'est pas exactement ça, mais qui est comme uniformisée à travers les économistes, un peu partout à travers le monde. C'est lorsque tu as un recul de ton PIB réel, qui est la somme de tes échanges en biens et services dans ton pays, donc le produit intérieur brut, tu as une baisse au cours de deux trimestres consécutifs. Lorsque ça arrive, la définition théorique du terme dit que tu es en récession. Mais encore une fois, les économistes, ils ont tenu à me dire, ça veut pas nécessairement tout dire, ça.
C'est peut-être important de mentionner que le spectre de la récession, oui, il y a le volet très théorique de la chose, mais habituellement, quand cette contraction-là arrive, c'est qu'il y a un impact sur le marché du travail. Tu vas avoir des mises à pied qui vont être importantes, il y a des secteurs qui vont ralentir. Puis c'est ce qui fait peur de la récession. C'est, oui, il y a l'économie du pays, mais l'impact direct dans les ménages. Puis ceux qui ont vécu des grosses récessions il y a quelques décennies de ça s'en souviennent encore. Des mises à pied massives, des taux de chômage qui sont terriblement élevés, pas d'augmentation de salaire pendant des années. Puis dans les années 80, ça avait duré un certain temps en plus.
Ce qui est spécial aussi, c'est que quand il y a une récession, d'habitude, l'inflation n'est pas trop élevée. Et quand l'inflation est élevée, exactement. Mais là, en ce moment, le spectre de la récession, donc le ralentissement économique, des pertes d'emploi, un taux de chômage qui augmente, pourrait être conjugué en plus avec de l'inflation. C'est ce qu'on appelle de la stagflation. Et ça, c'est le genre de situation économique qu'on ne veut pas, là.
Non, effectivement. Par contre, j'ai parlé à Benoît Durocher, qui est économiste principal chez Desjardins. Puis c'est comme sorti il y a de cela 5 jours qu'on a eu un recul du PIB réel du Canada de 0,6 %. Okay. Ce qui est notamment en raison des tarifs douaniers, là, de ce qu'on m'a expliqué. Par contre, il tient à dire que pour lui, on n'est pas vraiment dans une situation qui qualifierait de critique.
En fait, non, je pense pas qu'on est dans une situation critique. Là, effectivement, on est encore en contrôle. Comme je l'ai dit, effectivement, on ne peut pas complètement écarter les risques de récession. Hein, on ne sait jamais. Les incertitudes sont tellement élevées qu'on a juste à voir ce qui s'est passé le week-end dernier avec l'Iran. On le voit, le climat est encore très incertain, puis les risques sont élevés. Mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis un an, donc depuis le début, depuis l'introduction des tarifs douaniers aux États-Unis, mais l'économie canadienne et québécoise a quand même assez bien su tirer son épingle du jeu.
Puis, ça revient chez beaucoup d'économistes également. Même Patrick Gonzalez, c'est ça qu'il me disait. Oui, on a eu une baisse, un recul du PIB, mais toutes les autres composantes de l'économie québécoise présentement se portent bien. L'une des raisons principales du recul du PIB, en fait, c'est qu'on avait beaucoup de réserves des différents matériaux de bois ou encore d'acier. Puis on a liquidé ces réserves-là, donc on en a moins produit, ce qui a fait en sorte que ça a reculé. Mais si on le compare historiquement, encore une fois, de ce qu'on me dit...
Pas catastrophique.
C'est pas catastrophique, puis on n'est pas au moment de panique. On n'est pas encore arrivé à cette fameuse récession-là. Je termine avec un dernier extrait, parce qu'on parle de récession, puis c'est très théorique comme cadre. Mais si jamais on arrive dans une récession, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça impacte la population? C'est Patrick Gonzalez, enseignant en économie à l'Université Laval, qui a tenu à me rappeler que, oui, une récession, ça peut faire peur, mais par contre, ça impacte juste une partie de la population et non tout le monde.
Je ne sais pas si vous connaissez la vieille joke de Ronald Reagan, là. Une récession, c'est quand votre voisin perd sa job, puis une dépression, c'est quand vous perdez votre job. C'est une récession, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont affectés directement. Bon, pour les autres, le Québec, la grande partie de la population est dans le secteur des services. Un employé du gouvernement, par exemple, qui a un emploi régulier, ne perdra pas son emploi. Par contre, un jeune qui veut rentrer dans la fonction publique, peut-être que le gouvernement, à ce moment-là, va serrer la ceinture et dire on n'embauche pas pendant 6 mois parce qu'on a de la misère. C'est comme ça que ça se traduit une récession.
C'est bon. Tellement important ce qu'il a mentionné là, pour la région de Québec, par exemple.
Oui, puis c'est sûr qu'il y a des corps d'emploi qui sont plus protégés. Mais je m'excuse, s'il y a 10 % de taux de chômage, là, vous essayerez d'aller négocier vos salaires.
Ça
impacte aussi ceux qui ne perdent pas leur emploi. Là.
Par contre, je comprends ce qu'il mentionne. La région de Québec a été privilégiée quand il y a eu différents mouvements. Je ne dirais pas des crises économiques, mais différents mouvements économiques. Parce qu'à un certain moment donné, on regardait que dans l'employabilité, tu avais énormément de fonctionnaires puis tu avais beaucoup de compagnies d'assurance dont les sièges sociaux sont à Québec. Puis il y avait des stabilités d'emploi, alors qu'à l'extérieur de ça, c'était difficile. Les entreprises n'allaient pas en dotation. Fait que quand tu comparais, par exemple, les taux de chômage puis les économies des régions, il y avait un avantage pour Québec. Par contre, même s'il y a des gens qui gardent leur job, la récession a un impact pareil.
Ben oui, 100 % puis c'est excessivement négatif. C'est pour ça qu'on ne veut pas en arriver là. Mais on n'est pas nécessairement proche d'en arriver là non plus. Puis ça, c'est important de le dire parce que là, il y a plein de monde qui parle
anxiogène,
en peur.
Hein?
C'est ça, il y a plein de monde qui part en peur. C'est intéressant ce que tu disais sur la région de Québec aussi parce que présentement, on voit le taux de chômage augmenter légèrement partout au Canada.
Sauf ici.
Au Québec, présentement, le taux de chômage dans la région de Québec, c'est autour de 3,5 % présentement.
On est les plus beaux pays, hein?
C'est 3,5 %, là, théoriquement parlant, c'est pas si 5 ça pour l'économie.
C'est pas sympa tout.
Tu vises un 5 % habituellement de taux de chômage. Donc, en cas de récession, ben, on est entre guillemets quand même en bonne position avec un taux de chômage aussi bas que ça.
Super intéressant, Mathias. Pour vrai, un gros merci d'avoir pris le temps. Puis, tu sais, c'est un sujet qui touche tout le monde. Je regarde les textos défiler. Là, on a tout notre mot à dire, dépendamment de la situation dans laquelle on est. T'es le bienvenu quand tu veux, tu le sais.
Yes,
fait qu'on
ça
se retrouve.
Hey,
de toute manière, vendredi, t'es avec nous,
oui,
toi.
Oui, vendredi.
Bon, fait que vendredi, Mathias remplace Antonine pour ski de Gravel en le retour. Peut-être vous dire rapidement que ça ne se règle pas dans la circulation, toujours aussi compliqué. Capitale direction Est, ça se concentre à la hauteur de Robert Bourassa. Ancienne Sud dans la bretelle pour aller chercher Capitale Ouest. Ça n'a pas bougé non plus dans les dernières heures. Le pire, c'est vraiment l'entrée des ponts direction Sud. Que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV en ce moment, là, à partir de Charest, pas mal difficile. Autre chose, 88-971-102 texto. Gravel. Vous êtes dans Gravel en retour. Nous reste une trentaine de minutes ensemble. Il y a la pleine lune hier qui a fait bien jaser à 6 h du matin parce qu'elle
c'était
était
l'éclipse.
Rouge.
C'était oui. Censé être une lune de sang, puis finalement, on ne l'a pas tant vue.
Non, bien, les photos étaient cute. J'ai vu une couple d'affaires passer. Je ne me suis pas levée pour la regarder, mais j'ai vu des photos d'éclipse. Là, ça reste.
Il y avait une colline dans ma face. Je ne l'ai pas vue.
Oh, arrête. Toi qui aimes tellement ça en plus.
Mais il me suis levée rien que pour ça à 6 h.
Il y avait des belles vidéos sur YouTube. Hein.
Ah, ouais, mais c'est pas pareil.
Mais quand on s'est levé puis que mon fils s'est rendu compte que je l'avais pas réveillé en plein milieu de la la nuit pour aller voir l'éclipse. J'ai eu droit à une crise.
Il était pas
de
content.
Nerfs, et YouTube nous a quand même sauvé un peu la vie.
On aime ça dans ça là. Oui. Je peux comprendre.
Est-ce que vous êtes du genre 88-971-1021 à croire un peu en ce qui touche l'ésotérisme de temps en temps par rapport à ces affaires-là un peu inexplicables?
Ou à expliquer des affaires par l'intermédiaire de ça.
Oui,
comme moi, je vous dis.
La lune.
Plus ou moins trois jours après la pleine lune, le monde est débile puis ça paraît des nouvelles. T'sais, aujourd'hui, ouais, au palais de justice,
énervé.
T'avais le gars qui têtait des talons. Là.
Ouais, ça devait être la pleine lune. C'est la pleine lune, ça.
Assurément la pleine lune. Il faut que ce soit la pleine
non,
lune.
Non, mais on entend parler dans les urgences, les garderies, les services de garde à l'école. Tout le monde dit non, il y a quelque chose qui se passe.
Les études disent tout le contraire. Ouais. Mais chaque fois qu'on sort les études qui disent le contraire, on reçoit des textos par dire en disant non, il y a une influence. Puis là, ces temps-ci, la nouvelle mode, c'est de dire que tout est expliqué par Mercure rétrograde.
Mais oh, mon Dieu. Saviez-vous que c'est Mercure rétrograde?
C'est quoi Mercure rétrograde?
Là, attends une minute, il y a une affaire. Généralement, le monde qui pense à ça a un petit côté, tu sais, pas ésotérique nécessairement,
lunatique,
mais lunatique. Oui, il y a comme
moins
une liberté.
Rationnel,
hippie.
Moins.
Ouais. Et là, on a une autour de la table qui est franchement rationnelle. S'il y en a une à qui tu mettrais pas cette étiquette-là, c'est Antonine Iacarini. Puis là, cette semaine, à force de travailler avec toi, Antoine, je me suis comme rendu compte que, OK, là, tu sais,
c'est pas des jokes.
Non, c'est les signes astrologiques, puis c'est le l'horoscope, puis c'est
le Mercure rétrograde.
Ben oui. Mercure rétrograde, j'entends ça tout le temps, puis je comprends rien à ça. Fait qu'on s'est dit, il nous reste une journée demain ensemble. Ça a été lourd dans la dernière heure. On va s'amuser un peu. Tu as amené ton jeu de cartes, là, tes cartes ouais. à tirer et compagnie. Là. Puis là, tu vas nous amener un peu dans cet univers-là qui te fait triper. Puis j'ai envie de t'entendre, mais Véro l'a dit, sur Mercure rétrograde qui veut rien dire pour moi.
Moi, Mercure rétrograde, je peux pas vous expliquer le phénomène. Okay? Premièrement, je veux préciser, il y a peut-être des vrais astrologues qui nous écoutent présentement. Moi, je ne suis qu'une amateur. Alors, je suis très ouverte à la critique si je dis des bêtises. Moi, ça me divertit hautement. Puis là, c'est vrai que dans les derniers jours, vu qu'on passe plus de temps ensemble, je demande à tout le monde c'est quoi leur signe astrologique. J'ai quand même un drôle de comportement. Je suis comme, c'est quoi ton signe, toi? Puis, tu sais, j'aime
me
vraiment
fait
ça.
Cette semaine.
Et une autre affaire qui a fait allumer Véro là-dessus, c'est que vous vous souvenez de cette électrice dont le vote postal ne s'est pas rendu dans la circonscription de Terrebonne?
Oui.
Et ça fait en sorte que l'élection doit être reprise.
Oui, parce que la Cour suprême a annulé l'élection parce que ça aurait donné une élection où ça aurait été égal, puis qu'on n'aurait pas eu le choix de la reprendre de toute manière.
Donc, Nouveau, Étienne, de Nouveau, avait fait un reportage avec cette électrice. Puis l'autre fois, je regardais l'image sur la nouvelle, puis je disais, ah, mais je la connais, elle, l'électrice. Dans le fond, c'est une de mes tireuses de bonne aventure sur TikTok. J'en suis plein. Je la salue, OK? Donc, à chaque semaine, elle est comme, les béliers, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les béliers? Donc, c'est cette électrice dans Terrebonne pour qui le vote postal n'avait pas été comptabilisé.
As-tu déjà fait les statistiques de ce qu'elle prévoit pour ton signe?
Les statistiques, non. Moi, je vis ça semaine après semaine.
Okay. Mais là,
ouais,
Mercure
là, je prends ça avec légèreté. Je sais bien que c'est pas vrai.
Tu bosses
là.
Pas avec ça, on
ben
comprend.
Non, ben
mais Mercure rétrograde, c'est quoi ça change, mettons? Là,
ben, c'est que Mercure, si je ne m'abuse, est la planète de la bonne communication. Alors, quand Mercure ne va pas bien, là, on se parle tout croche, on se comprend pas, on a des textos, okay. On dit voyons. Pis... Donc, quand c'est Mercure rétrograde, quand ça va mal, puis que tu communiques mal, puis que tu chicanes avec les autres, tu peux mettre ça sur le dos des planètes. C'est pas ta faute, tu comprends?
Ah, c'est bon, c'est drôle. OK.
Donc, c'est pour ça qu'on aime ça, Mercure rétrograde. On dit aussi que quand Mercure est rétrograde, c'est pas le temps, par exemple, de se dire, hey, je pense que je vais changer de couleur de cheveux. Je t'annonce
mes
cheveux. Prends pas des grosses décisions. Vous avez jusqu'au 20 mars, puis là, vous avez le droit de procrastiner certaines décisions jusqu'au 20 mars.
J'adore
grâce
ça.
À Mercure
fait que
rétrograde.
Tu mets ça sur ce dos, là. Puis comment tu as commencé à t'intéresser à ça, toi?
Moi, je viens d'une famille où les gens sont éduqués, là, puis s'intéressent à la science, puis croient à la science et tout ça. Mais ma mère est assez ésotérique aussi. Ma mère, moi, c'est une grano un peu, là. C'est une vraie, là. Puis elle m'a montré l'art de tirer aux cartes.
Qu'est-ce que ça fait, tarot? Tirer aux cartes?
Tirer aux cartes. Donc,
c'est comme une voyante?
Oui, c'est comme des voyantes. Donc, on va poser une question pour toi, Audrey, aujourd'hui. On va demander quelque chose aux cartes. Là, je te prends un peu de cours, je ne t'ai pas dit d'avance. Donc là, pense à une question, mais je te fais un tirage à court terme. Je ne te fais pas ta carte du ciel, on n'a pas une heure de show encore. Donc, tu me poses une question professionnelle, personnelle. Ça peut même être pour un proche.
Oh,
demande-moi
ouais,
pas okay, de prévoir qui va gagner la Coupe Stanley et que ça marche pas de même. Là.
OK, mais ça peut. Donne-moi un exemple de question, mettons, que toi, tu te fais tirer de temps en temps ou que tu te tires, là, juste pour que je comprenne à quel point c'est grand.
Ben, écoute, on pourrait demander est-ce que dans les prochains mois.
Tu vas te retrouver un autre toi.
Tu vas te retrouver un logis qui te plaît, par exemple. Ça pourrait être
ça
quelque
pourrait
chose.
Ça pourrait être
banal
de même.
Ben oui, vraiment. Mais ça là, peut. Il faut que ce soit léger. Il ne faut pas que tu bases ta vie là, sur des grosses décisions importantes non plus.
OK, je ne demanderai pas si je vais rester avec mon amoureux, c'est un peu lourd. Là. Je vais
ben, c'est parce que si je dis non en onde,
ça peut être tough ce soir.
ça, là. OK, on garde ça.
Hey, c'est-tu quoi, celle-là? Je la garde. Je...
Puis Mercure est rétrograde, alors vous risquez de vous chicaner.
Ah, OK, c'est bon, hein, c'est bon à savoir. Je vais noter tout ça. Non, mais j'aime ça, par exemple. Est-ce que je vais réussir, tiens, à mettre assez de sous de côté pour mes projets de la prochaine année?
Ah, c'est bon, ça. Fait qu'on,
avoir veut... tes dépenses de masque coréen, j'en doute fort.
Oui, oh. C'est ça, mais on va quand même demander au cas. Donc, du côté du pour et du positif, tu as la mort. Et là, cette carte-là fait full peur à tout le monde, mais c'est une bonne carte, la mort. Okay? Donc, c'est souvent des départs à zéro. On remet les compteurs à zéro. Okay. On passe à travers, des fois, un petit passage à vide, mais après lequel il y a quelque chose de positif. Donc là, je te tire tes autres cartes.
Puis ça se peut-tu que ça se soit passé dans les derniers mois,
oui,
mettons?
Okay. C'est pas nécessairement tout dans le futur. Ça fait partie d'un portrait qui est complet. OK. Mais du côté contre, tu as l'ermite. L'ermite, c'est une espèce de solitude. Donc, tu sais, on a beaucoup parlé de solitude pendant mm-hmm. cette émission aussi. Donc, c'est dans la thématique. Des fois, on peut sentir peut-être un manque de soutien. On a l'impression qu'on est un peu pogné tout seul avec ça, puis qu'on essaie de s'en sortir, mais qu'on n'a pas d'aide autour de soi.
C'est ce qui me fait rire.
C'est quoi?
Ce qui est beau avec toutes ces
belles-là, c'est que tu essaies de faire des liens, hein?
C'est que tu fais des liens.
Puis
là,
ben
tu
oui.
dis, ah ben, tabarnak,
ben oui.
C'est pour ça. C'est ça qui arrive.
OK. Alors, on continue avec l'impératrice. Là, je sors mon petit livre.
Parce qu'Antonine a vraiment ses vraies belles cartes et son petit
et
livre
notes.
Au cas où, là.
Donc, ben écoute, on parle d'une pleine possession de ses moyens. Donc, l'impératrice, ça peut être une promotion, ça peut être un accroissement des responsabilités, puis on parle d'une bonne vitalité. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle quand on parle de « est-ce que je vais avoir des moyens pour faire quelque chose que je veux faire? » Puis on parle aussi, quand on a l'impératrice, ça peut être une femme sûre d'elle. Moi, je pense qu'on parle de toi ici. Donc, je pense que tu peux agir avec confiance pour la suite.
Moi, je pense que c'est ton impératrice, mais ça, c'est libre d'interprétation.
Oui, c'est ça, on interprète comme on veut.
Ah, puis tu vois... là, dans cette autre carte que je viens de te tirer, c'est le pape. Le pape, c'est un intellectuel, OK? Donc, okay. C'est quelqu'un qui a une autorité.
Fait que ça parle encore de moi.
Ça peut être Audrey. Ça peut être Véro. Un peu moins Audrey. Audrey, toi, t'es là.
Je
on est ailleurs.
ça me fait du bien.
Et ça peut aussi être quelqu'un autour de toi qui va te donner un coup de main, finalement, qui va te donner un bon conseil. Donc, okay. Est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui a des clés qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif? Et moi, je vois un homme mûr. Donc, est-ce que papa, par exemple, aurait des bons conseils à donner? C'est quelque chose qui pourrait peut-être
Parce que ton planificateur financier n'est pas si mûr.
Non, c'est
il
ça
que
j'allais dire. Il est
pas
brillant,
si
mais il n'est pas mûr.
Il est jeune, un jeune homme.
C'est Alexandre Leblanc.
Ah, ben oui!
mais papa, effectivement, est de bons conseils financiers, généralement. C'est pas faux. C'est pas faux.
Et la dernière carte qui vient d'apparaître sur mon radar, c'est le diable. Et le diable, c'est
dans
une...
les détails.
Quand on parle d'argent, c'est une bonne carte.
Comment ça?
C'est de l'argent.
Oh!
Mais c'est aussi du plaisir. Donc là, il faut que tu fasses attention parce que des fois, tu peux avoir des tentations. Le diable, ça peut être aussi des tentations.
Ah, j'en ai
tu peux
beaucoup.
Être tenté de on dépenser pour des niaiseries. Donc,
de sortir au magasin.
Donc, je vois quand même de l'abondance. Je vois du positif au bout de la ligne, mais je vois que tu as des tentations sur le chemin et que peut-être que tu devrais demander conseil à... Là, je dis un homme, mais quelqu'un qui a de l'expérience et qui a une certaine autorité.
Ça me fait rire parce que si, mettons, je vous raconte ce qui fait que je fais tant de liens dans ce qu'Antonine me présente, je me suis séparée il y a plusieurs mois maintenant. Bon, vente de maison et compagnie. Là, je me retrouve complètement sans domicile fixe. J'ai un amoureux. Je me promène un peu partout, ce qui fait que j'ai la chance, dans cette espèce de brouhaha-là, de pouvoir mettre plus de sous de côté que je pouvais en mettre. Fait que la réalité, c'est que le chemin est un peu tracé pour qu'il y ait une certaine abondance ou bref, un coussin qui serait fait à nouveau, je vais dire.
Par contre, il y a beaucoup d'opportunités.
Mais c'est ça, il y a beaucoup d'opportunités de voyage, d'envie de vivre. Fait que le petit diable est peut-être un peu là, mais ça me fait rire à quel point tu es capable d'interpréter ça en ta faveur, finalement, constamment. Dans quel contexte tu te tires aux cartes?
Ça peut arriver des fois, tu sais, par exemple, moi, je suis une travailleuse autonome et je fais des chroniques, je collabore avec plusieurs médias. Puis l'été, là, c'est un moment où, de quoi mon automne va être fait? Puis là, j'ai plein de négociations avec plein de personnes différentes. Puis des fois, j'aime ça me tirer aux cartes juste pour voir, tu sais, c'est quoi la vibe, c'est quoi l'état d'esprit. Puis ça m'aide des fois juste à réfléchir à la bonne attitude
c'est
adoptée.
C'est tellement logique ce que tu dis là, parce que dans le fond, Audrey, tu sais, tu traces bien les liens que tu veux. Je pense que c'est quelque chose qui force à la réflexion.
Exact.
Tu sais, parce que tu le prends pas pour du cash. Là,
c'est un moment pour toi. Ouais. Là, tu dis, ah, oh, cette carte-là, ah, oh, c'est vrai, hey, j'ai cette personne-là autour de moi qui peut-être aurait des bons conseils financiers. Tu sais, c'est juste un moment que tu prends pour
là,
toi.
Là, tu as tiré 5 cartes.
Ouais.
C'est-tu tout le temps 5 cartes?
Il y a toutes sortes de manières de tirer. Moi, j'aime bien cette manière de tirer-là parce que c'est rapide. Puis en passant, je tire seulement avec une partie du tarot parce qu'il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et juste vous dire comment ça prend quand même un peu de place dans ma vie, le tarot. J'adore apporter mon jeu de tarot à des soupers, dans des parties. Tu sais, un petit peu en boisson, là.
Oh,
tu commences
oui,
à tirer le monde
pour
aux
le
cartes.
Fun.
C'est vraiment drôle. Et je dois vous avouer même que j'ai 3 cartes de tarot tatouées dans le dos.
Non! Hey!
Puis tu sais, j'en parle pas beaucoup de mes tatouages. Mes tatouages sont pas très visibles. J'en ai un petit qui est visible, qui est une petite fleur de lys sur mon poignet.
Sans aucune surprise.
Mais sinon, tu sais, moi, j'aime ça. C'est comme ma vie personnelle, là, mes tatouages. Là, les gens les voient pas. J'ai 3 cartes dans le dos. C'est mes 3 cartes qui sortent le plus souvent. C'est mes 3 cartes préférées. Donc, voilà, ça va,
c'est
ça va jusque
ben
là. Je suis très, très ésotérique, mais tu sais, dans la vie, on n'a plus la religion qui prend autant de place dans nos existences.
Non, puis il y en a qui vont se trouver des coachs de vie, il y en a qui vont se trouver la méditation, il y en a qui vont, tu sais, quand même pousser
rentrer
très,
dans
très,
des
très
sectes.
Loin. Il y en a qui vont rentrer dans des sectes.
C'est plus dramatique un peu.
C'est triste, mais j'ai effectivement l'impression qu'on a tous besoin d'un petit côté un petit peu plus... on va croire à quelque chose qui va nous faire du bien, de spirituel, mais à différents degrés.
Dans le fond, tu sais, de tout temps, l'humain a aimé s'intéresser à des choses inexplicables, puis ça ajoute un peu de magie dans mon quotidien.
Ben oui, on aime croire. Là, Véro, tu y échappes pas, hein? Pose une question.
Demain. Oh, yeah!
On peut-tu le faire demain?
On tire aux cartes demain?
Ben, pourquoi pas?
Ben,
on
pourrait faire ça. Écoute,
ça va être une rubrique quotidienne.
Ça, ta question a besoin d'être bonne.
Je vous raconterai ma visite chez une diseuse de Bonne Aventure en Californie.
Ça m'intéresse.
Oh mon Dieu, t'as fait ça en voyage en plus.
Okay, oui.
Vous savez que j'ai jamais osé aller voir une voyante ou une affaire de même parce que ça me fait peur. Tu sais, je veux dire, là, j'ai confiance
comme
en toi, c'est les quatre. Mais non, mais
puis on n'a pas invoqué les esprits non plus.
Mais non, mais là, c'est ça. Là, je me dis tout le temps, ça, c'est le genre de sujet dont je suis toujours un peu sceptique. Mais je prends pas de chance.
D'un coup que ça marche.
Je tenterai pas le terrain avec quelque chose de trop négatif. D'un coup que ça existe pour vrai. 88-971-1021 si jamais vous avez des questions spéciales pour Antonine, on va reprendre ça demain. Je trouve ça incroyable qu'on voit ce côté-là. Toi, c'est la beauté de la radio.
J'ai pas d'orgueil quand même parce
j'adore.
Que, tu sais, je suis une experte en politique, je suis une analyste politique, je suis quelqu'un de sérieux.
Mais t'as des
cartes
de tarot de tatouer dans le dos.
Est-ce que ça me fait perdre la crédibilité?
Pas du
L'avenir
tout.
Nous le dira.
Je trouve que ça t'en donne beaucoup.
Oh, ouais. Ça te rattachante, mon ami. On vient dans quelques instants à Boulevard 102.1, bougez pas. Gravel. Vous êtes à Boulevard 102.1. Si vous venez de vous joindre, ben ce sont les 13 dernières minutes de cette émission, précisément. Antonine Iacarini qui est toujours là. Véro Bergeron également. Je m'appelle Audrey. Denis qui va revenir de vacances la semaine prochaine, lundi. La relâche est terminée. Peut-être rapidement faire un tour dans la circule parce que c'est encore super difficile pour ceux qui y sont pris. Capitale Est, auteur Robert Bourassa. L'entrée des ponts direction sud, Henri IV à partir de Versant Nord, ça ralentit. Duplessis, c'est à partir de chemin Sainte-Foy. Sur la rive sud, pas mal dégagé, évidemment. Vous n'hésitez pas s'il y a autre chose. On va faire une petite tournée de nouvelles avant de se laisser ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité, comme Denis dirait, Véro.
Le dossier de Locmerville est revenu dans l'actualité aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'à l'été dernier, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle au terme d'un procès qui avait été entendu du côté de Rimouski. Puis souvenez-vous de sa défense parce que cette histoire-là s'était déroulée il y a quand même plusieurs années. C'était une nuit de juin 2000. C'est une femme qui l'a accusée de l'avoir agressée sexuellement après une soirée bien arrosée. Puis tu sais, elle y était allée avec quand même assez de détails pour que le juge la croie en disant on s'était rencontrés dans le bar, on s'est parlé, j'ai consommé un peu d'alcool, j'ai perdu la carte. Puis par la suite, dans ma chambre d'hôtel, c'est là que tout se serait passé. Puis la défense de Locmerville, c'était de dire « Oui, mais je suis pas le seul noir, elle a dû me mélanger avec un autre. »
Oh mon Dieu!
Puis son avocat avait même présenté des noms, etc., etc. Mm. Puis vous comprendrez que le hors de tout doute raisonnable ne s'est pas appliqué dans ce cas-ci, d'où le verdict de culpabilité. Et aujourd'hui, c'était le début des observations sur la peine. Ça veut dire que de part et d'autre, du côté de la défense puis de la couronne, on fait des suggestions au juge en disant « Voici ce qu'on croit qui est approprié pour l'individu qui a été reconnu coupable. » Puis on s'entend sur la durée. On s'entend juste pas sur le lieu. Alors que du côté de la Couronne, le ministère public demande une peine de 2 ans et demi de détention pour ce qui est de Locmerville. Et du côté de la Défense, on propose une peine de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité.
Ah, j'haïs ça.
Son avocate qui a insisté sur le risque de récidive qui est évalué sous la moyenne, le risque nul pour la société.
Oui, mais on s'en sac de tout ça, c'est des vacances. Mais moi, chez nous, avec Netflix, moi, être bien, là. Et pour vrai,
moi, je suis tellement à ma place que toi, puis je comprends que il y a des avocats criminalistes qui vont dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça! »
Franchement.
Mais, tu sais, on se rappelle qu'une peine, l'objectif de tout ça, c'est d'être dissuasif aussi pour des gens qui auraient l'intention de poser certains gestes.
Moi, ça me donne... pas dans ce cas-là, on s'entend, mais j'allais dire, ça me donne quasiment envie de poser un petit crime pour me ramasser en obligation de rester chez nous quelques mois, là, puis de prendre ça tranquille.
Donc, pour ce qui est de la décision, le juge qui va prononcer la peine le 2 avril le prochain. Il y avait une sortie du maire de Québec, Bruno Marchand. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre collègue Mathias Turcotte s'est déplacé. Ça faisait plusieurs jours que le maire n'était pas sorti. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, entre autres les terrasses des commerçants sur Grande Allée, la position de l'Union des municipalités du Québec sur l'itinérance en remettant une pression sur le gouvernement. Mais parmi les éléments qui retiennent l'attention, on s'est parlé de financement de tramway. On sait que l'opposition à Québec, Respect citoyen, sort souvent en disant « ça n'a pas de bon sens qu'on commence des travaux alors qu'on n'a pas ficelé complètement le budget. » Ils demandent encore que le pourcentage de contribution du fédéral, parce qu'actuellement, le montant avait été déterminé sur un budget antérieure qui a augmenté depuis. Fait qu'il y a la version pourcentage qui n'a pas été confirmée, puis il y a la version montant qui, elle, semblait encore tenir la route. Donc, le maire Marchand qui a contacté le cabinet du premier ministre canadien, Mark Carney, au sujet du financement.
J'ai même appelé au bureau du premier ministre.
Prise 2.
Prise 2, je m'excuse, Véro. Je t'ai coupé ça là. J'avais le doigt sensible sur le piton. OK, ça part.
J'ai entendu parler de ça. J'ai même appelé au bureau du premier ministre. J'ai même écrit
lequel?
Au bureau du premier ministre du Canada pour du dire Canada? Qu'on avait besoin de cette entente-là.
Ah oui? Parce que notamment... C'est quand vous l'avez appelé? C'est récent, ça?
Non, on s'est texté la semaine passée. Après que j'ai vu M. Girard. Après que j'ai vu Éric Girard pour les consultations prébudgétaires pour dire le Québec s'apprête à déposer son budget. On a besoin d'avoir cette entente-là, notamment sur les transports collectifs, qui couvre le tramway, en tout cas, dépendamment de ce qu'ils négocieront, pour que ça soit dans le budget du Québec et qu'on puisse développer nos infrastructures de transport.
Et vous êtes d'accord, ça marche, le premier ministre Carney, ou c'est pas trop facile?
Les deux me disent qu'ils y travaillent. Les deux parties me disent qu'ils y travaillent.
Il faut savoir que pour ce qui est du budget de la province, c'est pas tout de suite que ça se dépose, alors qu'habituellement, c'est à la mi-mars. C'est pas le cas à ce moment-ci. Clément Marchand, qui encore une fois semble plutôt confiant, demain, il tiendra un point de presse à 10 heures alors qu'on va annoncer une version finale du plan Saint-Roch. Pas le plan total, mais vraiment une portion d'investissement. Pas le million qui avait été promis en campagne électorale. Si on attend encore l'argent du côté du provincial. Mais on n'aura plus de détails sur le projet d'éclairage urbain. Puis quand on avait questionné la population, savoir, il faut faire quoi pour ramener la population dans Saint-Roch? Il y avait les activités. On sait que Aura s'est installée à l'église Saint-Roch, mais on a beaucoup parlé des coins noirs, de la sécurité, etc., etc. Fait que ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'on va nous présenter. Le journal ce matin qui avait certains détails sur, entre autres, le stationnement de l'îlot Fleury plus éclairé, les rues Sainte-Marguerite, Saint-François, Duroy et Caron. Puis, tu sais, c'est un coin qui a été beaucoup, beaucoup en travaux dans les dernières années. Puis comme on n'a pas incité la population à y être, la nature a horreur du vide, puis c'est comme si c'est installé certains coins où tu dis « Hey, j'irai pas mettre les pieds là. » Ça n'a pas l'air super, super accueillant. Fait que ce sera intéressant de voir où la ville se positionnera demain. Il y a aussi un point de presse, un briefage technique à Lévis sur l'état des stations de traitement des eaux usées. On se souvient que Radio-Canada, la semaine dernière, a sorti des chiffres à l'effet que dans le secteur de Saint-Nicolas, il y avait 15 % des eaux qui se rendaient directement dans le fleuve sans être traitées. Ce qui est en partie à l'origine du moratoire du côté de la ville de Lévis, qui a limité la construction de certains immeubles. Puis il y a des poursuites qui ont été enclenchées par des promoteurs qui n'ont pas pu aller de l'avant. Sérieux, j'ai l'impression qu'à Lévis, là, plus ça va aller, plus on va découvrir des affaires. Cette ville-là a tellement explosé rapidement, puis c'est comme si on avait surfé là-dessus sans faire de base solide, puis on s'est beaucoup pété les bretelles dans les années Le Houllier sur le développement de Lévis comparé à Québec, comparé à ci, comparé à ça.
C'était positif ce qui se passait, ça réussit.
C'est super positif.
Il y a des vices cachés dans le développement.
Exact.
Exactement. On est peut-être allé trop rapidement pour justement pouvoir aller plus vite et peut-être trop vite. Puis en terminant, votre affection pour le fromage en grains?
Oh, très grande.
Quand même élevé, là, oui, oui.
Puis, tu sais, il n'y a rien de plus poche qu'un pas vrai fromage en grains. Puis, avez-vous déjà voyagé à des endroits où on vend du fameux cheese curd?
Oui, ou alors des poutines, là. On a des poutines canadiennes. Non. Et puis là, finalement, c'est du fromage qui fond.
C'est épouvantable.
Tout est filoché, là. Non.
Le Conseil des industriels du lait du Québec voudrait que le fromage en grains à poutine soit officiellement et légalement reconnu par une indication géographique protégée. Que c'est ça? C'est un processus qui est somme toute assez long, qui permet de mettre une espèce de sceau de qualité et de standardisation.
C'est comme le champagne?
Bien, le champagne est une appellation contrôlée. Fait que c'est un vin mousseux de méthode champenoise, mais quand c'est à champagne, tu peux l'appeler champagne. Tu as ça pour le Bordeaux. Tu vas avoir ça pour certains jambons crus. Selon que tu te retrouves en Espagne ou encore en Italie, ça porte pas le même nom. Tu n'as pas le droit de l'appeler de même. Au Québec, on a des appellations contrôlées.
Comme lesquelles?
On a, entre autres, le vin de glace, qui en fait partie, le vin de glace du Québec. L'agneau de Charlevoix est une appellation contrôlée.
Le blé d'Inde de Neuville.
Le blé d'Inde
également.
Sucré de Neuville en fait partie.
Et il y a une organisation qui surveille ça. Parce que moi, j'ai vu la semaine passée dans les nominations du Conseil des ministres qu'on nommait les gens sur le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Je peux-tu être là?
Je pense que ça te plairait beaucoup comme travail.
Ma question demain, carte de tarot va porter sur ma carrière d'abord.
OK. Est-ce que je vais devenir un membre du Conseil des appellations réservées? Bien, en fait, c'est ça. Il y a des inspecteurs qui surveillent qu'effectivement, il n'y a pas que les appellations contrôlées du Québec soient bien respectées. Et aussi, je pense qu'il y a quand même un travail de valorisation de ces produits-là.
De notoriété,
de rayonnement également. Mais imagine la belle job. Toi, tu vois juste du site de glace, tu manges du blé d'Inde de Neuville, puis des petites viandes de Charlevoix, extraordinaire.
Finalement, moteur joint, Véro, dans ton panneau.
Je crois que c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui est très long, puis l'industrie travaillait déjà là-dessus depuis 2 ans. Puis là, ça reste à voir, tu sais, comment on va faire pour, si c'est accepté, comment on fait pour l'appliquer, va falloir que l'industrie choisisse d'embarquer là-dedans. Puis là, on parle du fromage, mais on parle pas nécessairement de l'appellation poutine. Mm-hmm. Fait que ça pourrait être un autre débat à savoir.
Mais la poutine, je pensais que c'était déjà fait.
Non, puis il y a de l'appropriation culturelle en tabarouette avec
non,
la poutine aussi, là.
Il y en a qui vont pouvoir s'obstiner que selon la région où tu te trouves, c'est acceptable d'avoir un fromage râpé au lieu d'avoir un fromage en grains.
Oh, le débat sur la poutine râpée,
là,
ça, c'est un beau débat.
On peut même aller sur la poutine râpée gratinée comme aux trois points à Jonquière.
Ça, c'est bizarre, mais il y a une chose. À Jonquière, justement, chez Bébé.
Ça, c'est en descendant la côte de la Saint-Do.
Oui. Là, tu dépasses la traque de chemin de fer, pour ceux qui ont la référence. Moi, quand je finissais de travailler d'un bar, si Pauline était fermée, c'est à Saint-Do.
Pauline, ça, c'est le Taxi Diamond. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une station de taxi avec un petit comptoir et quelques tables à peine.
Pauline, là...
incontournable.
Elle est ouverte jusqu'à comme 4... En fait, elle est ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clients.
Okay.
Puis Pauline, là, je veux dire, elle vieillit en âge, mais Pauline est tout le temps le cheveu rose, tout le temps... Elle connaît tous les étudiants, Pauline, OK? C'est même pas de même que ça s'appelle le casse-croûte en plus, mais
ça
avec le temps...
Le casse-croûte du Taxi Diamond.
Oui, puis c'est rendu chez Pauline. Mais chez Bébé, une des spécialités, leur sauce, eux autres, barbecue, est un peu sucrée, comme chez Tiwi, mettons, pour vous donner un comparatif.
C'est pas la sauce brune, c'est la sauce barbecue sucrée, non pas vinaigrée.
Mais il y a une affaire. Le fromage râpé est d'une popularité chez Bébé. Là.
Mais moi, je suis pour ça.
Mais c'est excellent.
Une bonne poutine râpée sauce barbecue, honnêtement, je suis pas contre.
Excellent. Mais il faut que tu aies du... Moi, il y a une affaire. Il me faut un peu de squish-quish dans le fond. Il faut quand même que j'ai une bouchée de fromage squish-quish, mais du râpé dans une poutine, c'est surprenant comment c'est bon.
Je vais vous révéler un de mes projets des prochaines années. Je veux une charte de standardisation des poutines de casse-croûte. Parce que quand on voyage, puis qu'on est de grands fans de casse-croûte, mon amoureux et moi, puis souvent, tu vas dans une région où tu ne connais pas nécessairement les casse-croûtes.
C'est vrai.
Toujours l'espèce de risque d'arriver dans un casse-croûte où les frites ne seront pas des pommes de terre fraîches, ce sera des frites congelées, la sauce ne sera pas une sauce maison, que ce sera une sauce en poudre, ou encore que leur barbecue est une sauce sucrée et non pas vinaigrée, de fromage. Tout est possible. Moi, ce que je veux, c'est une charte. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit identifié. Fait que quand tu vas dans un casse-croûte...
Nos patates ne sont pas des vrais maçons, c'est
pas grave. Non, c'est pas grave. L'important, c'est que tu saches à quoi t'attendre.
T'as raison.
Parce que je pense que dans certains endroits, quand c'est super bien fait, tu vas très bien vivre avec des frites qui sont congelées, mais qui sont bien cuites dans une huile qui ne goûte pas le rance, qu'une sauce en poudre, si elle est de bonne qualité, va être vraiment meilleure qu'une sauce botchée maison ou encore étirée à l'eau. Puis que des fois, un fromage qui a été refroidi, si tu le retempères de la bonne manière, tu n'y verras que du feu. Mais je veux être au courant.
Moi, je te couronne grande inspectrice des casse-croûtes du Québec.
Je peux?
Oui. Mais j'ai pas de salaire à offrir, mais t'es...
Je peux être goûteuse dans ton équipe?
Mais moi, il n'y a pas de problème. Si on veut faire ça... Je voyais, là, entre autres, Marcotte là, qui est en train de pelleter leur cours parce qu'ils vont ouvrir bientôt.
À Sainte-Catherine.
Je pense que dans les prochaines semaines, c'est peut-être important de se pencher là-dessus et collectivement indiquer quelles informations on veut avoir en amont avant de choisir un casse-croûte dans un road trip.
Ça amène des frustrations. Là. Quand tu cherches une poutine McDo, tu veux une poutine McDo.
Exactement.
Quand tu veux une bonne poutine pleine de patates d'huile doublement trempée d'un bon vieux casse-croûte, c'est ça que tu cherches.
Tous les goûts sont dans la nature.
Oui.
Si la personne cherche une sauce barbecue sucrée, qui suis-je pour m'obstiner avec elle?
C'est vrai.
Mais si moi, c'est pas ce que je recherche, je veux avoir l'information d'abord
mais
avant
y a un
de
truc,
me déplacer.
Hein? Quand c'est trop beau, littéralement, c'est que généralement, il y a quelque chose de louche.
T'as raison. Faut que ça soit un peu tout
croche. Faut que la lèche de Pepsi soit vieille, là.
Chaque ta patate écrit au Sharpie, rayé au Sharpie aussi. Ça, vous avez quelque chose de bon, généralement.
C'est mon combat des prochaines années.
J'adore. On remettra cette discussion-là. Marceau s'en vient dans les prochaines minutes. Le sujet bicoline, si vous avez pas c'est quoi, vous allez voir très, très intéressant dans la prochaine heure.
Marceau,
c'est
en cas de
du grandeur nature dans le coin de la Mauricie. Très impressionnant. Nous, on se laisse. On se retrouve demain. C'était Gravel en retour à 14h demain. Salut les filles.
Bye Audrey.
Bye.